nouveau programme conclu entre la RDC et le Fonds monétaire international. Le ministre Doudou Fouamba s'en félicite. Pour le ministre congolais des Finances, la RDC va ainsi bénéficier de plus de 2,5 milliards de dollars américains pour renforcer sa stabilité financière. Le représentant pays du FMI estime que ces fonds vont aider la RDC à lutter contre la pauvreté de sa population. Mais pour le député national Augustin Matata Ponyo, le FMI accompagne le sous-développement de la RDC en accordant ces fonds alors que plus d'un milliard du premier programme ont été détournés. Notez que Augustin Matata Ponyo en parlera longuement à la fin de ce journal. Il sera l'invité de Radio Okapi. Ouverture hier à Kinshasa du Forum national pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. C'est pour mobiliser toute la communauté nationale à s'engager en faveur de l'élimination de cette maladie en RDC. Bonjour à tous. Le ministre congolais des Finances se félicite de l'aboutissement heureux des discussions avec le Fonds monétaire international sur deux nouveaux programmes conclus entre la RDC et cette institution financière internationale. Grâce à ces programmes, le pays va bénéficier d'un montant équivalent à 2,8 milliards de dollars du FMI. Pour le ministre Doudou Fouamba, ces initiatives incarnent la détermination du gouvernement à moderniser son économie. Il l'a dit hier jeudi lors d'une conférence co-animée avec le ministre d'État en charge du budget et le représentant pays du Fonds monétaire international. Ces programmes visent à renforcer la stabilité financière de la RDC tout en accélérant des réformes essentielles pour garantir un avenir prospère et durable, affirme le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde.
Nous venons de négocier les deux programmes de manière exceptionnelle. Un programme FEC estimé à 1,770 milliards de dollars américains et un autre programme RST pour la résilience climatique de 1,1 milliard de dollars américains. Nous avons réussi au niveau de cet accord de service à obtenir que plus de 800 millions de dollars soient convertis pour les financements des investissements privés. Et c'est la particularité de ces programmes avec l'ancien programme, parce que dans l'ancien programme, nous n'allons pas affecter ces ressources vers le fonctionnement ordinaire. Ce sont des investissements qui vont induire une croissance économique plus soutenable et sortir des millions de Congolais de la précarité dans laquelle ils se retrouvent. En ce qui concerne les programmes sur la résilience climatique, RST, c'est une initiative qui va permettre à notre pays de bénéficier d'1,1 milliard de dollars que nous allons directement investir et nous allons développer des investissements durables qui vont permettre à ce que nous puissions accroître la résilience climatique de notre pays.
En réaction, le député national Augustin Matata Ponyo dit ne pas comprendre comment le FMI peut conclure deux nouveaux programmes de plus de 2,8 milliards de dollars avec un pays dont l'économie ne répond à aucun critère quantitatif du FMI, dénonçant le détournement de plus de 1,5 milliard de dollars américains des fonds décaissés par le FMI lors du premier programme. L'ancien premier ministre estime qu'en accordant des crédits à la RDC qui augmente la dette publique extérieure du pays, le FMI accompagne le sous-développement de la RDC. Augustin Matata Ponyo.
C'est dramatique et c'est malheureux qu'une institution comme le Fonds monétaire international, tel un médecin qui voit son malade davantage maigrir et continue à lui prêter de l'argent pour acheter des médicaments, tant il sait très bien que cet argent ne sera pas affecté à l'acquisition des médicaments. Donc, j'invite le Fonds monétaire international à ne pas décaisser ces fonds parce que ce serait un acte de complicité. Ce serait un acte de complaisance qui n'est pas acceptable du point de vue professionnel. Si je dois faire des recommandations au Fonds monétaire, la première recommandation, c'est faire un audit de tous les fonds que cette institution internationale a décaissés. Que les détournements soient publiés, c'est-à-dire que les rapports d'audit soient publiés et que les complices soient sanctionnés.
Réagissant à la critique de l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo sur ces deux nouveaux programmes du FMI conclus avec la RDC, le représentant au pays du FMI estime que ces fonds vont aider le pays à stabiliser son économie et à lutter contre la pauvreté de sa population. René Tapsoba.
Le programme vise des objectifs stratégiques qui sont ancrés directement sur le programme d'action du gouvernement. Si vous arrivez à investir dans les infrastructures et faire la desserte des zones agricoles, ça va vous permettre donc d'être moins vulnérable et de renforcer la résilience de l'économie. Un autre aussi axe majeur, c'est de veiller à créer beaucoup d'emplois. Il va falloir travailler à ce qu'il y ait une impulsion du secteur privé. Si, à travers le programme, on arrive à mettre en œuvre les réformes qui sont liées à l'amélioration de la transparence, y compris dans le secteur extractif, non seulement ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de recettes budgétaires pour mieux prendre en charge votre stratégie de développement, mais ça va aussi permettre de lutter efficacement contre la corruption.
C'était un dossier signé Michel Kifindangoy. Et nous restons avec vous, Michel Kifindangoy, pour parler encore économie avec la dernière livraison de notre série de production sur les affectations des crédits budgétaires pour l'exercice 2025. Les affaires économiques et les investissements dans les secteurs producteurs prennent un total de 25,02% du budget national. Cette enveloppe sera essentiellement investie dans les domaines de l'agriculture et l'élevage, la pêche, le transport et les voies de communication et aussi dans les infrastructures et travaux publics. Michel Kifindangoy.
Le document numéro 6 portant sur les prévisions des dépenses du budget 2025 renseigne que le secteur de l'agriculture et de l'élevage bénéficie de près de 7% du budget, suivi du transport routier 4,6% et 3,82% pour le développement rural. La construction des bâtiments et travaux publics prend 2,26% et 2,14% pour l'électricité. La chasse et la pêche prennent 1,25% et 1,15% pour l'économie générale et échange. Le secteur des industries manufacturières ou des transformations prend 0,65% et 0,52% pour l'emploi. Les transports aériens, fluvial, lacustre et ferroviaire ont moins de 0,60% et 0,41% pour les postes, télécoms et technologies de l'information et de la communication.
Restons à Kinshasa pour parler de la 10e édition du Forum international des affaires dénommé Makutano qui se tient dans la capitale. Au deuxième jour, hier jeudi, plusieurs exposés ont été faits, notamment sur l'agriculture et l'énergie. Les participants ont exprimé leur attachement à l'agriculture qui, selon eux, reste un levier pour le développement économique du pays. L'un des exposés a concerné la place qu'occupent le manioc et le maïs dans l'alimentation du Congolais. Moumou Amouri, ingénieur agronome, explique l'apport du manioc et demande aux agriculteurs d'utiliser le produit local au lieu de se tourner vers l'importation. Il est au micro d'Étienne Dissoumbo.
Le manioc et le maïs constituent les principales cultures du pays et les deux ont un point en commun, c'est l'apport énergétique dans l'alimentation. Ça, c'est juste sur le plan alimentaire. Le manioc et le maïs entrent en grande partie dans l'alimentation humaine et animale. Et aujourd'hui, le manioc seul occupe plus de la moitié de superficie emblavée à travers la République démocratique du Congo. Le manioc est la troisième culture énergétique du monde. Aujourd'hui, le manioc, la RDC est le deuxième grand producteur manioc, mais c'est plus pour un aspect alimentation humaine. Par contre, un pays comme la Thaïlande qui vient après la RDC transforme plus son manioc en amidon et il exporte son amidon. Le gros problème, ces jeunes agronomes, ils ont la connaissance, mais ces jeunes font face à un problème de financement. C'est question qu'ils se mettent ensemble, qu'ils essayent de réunir leurs forces, commencer petit et grandir, au lieu de travailler de manière isolée.
Terminons ce chapitre économique avec le Nord Kivu. À Goma, la 10e édition du Festival Amani a été annulée, vous le savez. Le Festival de la Paix, qui devait commencer hier jeudi 14 novembre, a été annulé sans préavis par le maire de Goma pour des raisons sécuritaires. En dehors de son caractère culturel, le Festival Amani revêt aussi un caractère économique avec un important impact pour la ville de Goma. Un budget important était d'ailleurs alloué à l'organisation de ce rendez-vous. Des contributions qui viennent en grande partie des sponsors, des entreprises publiques et privées, des institutions de microfinance, des ambassades et voire des volontaires. Ainsi, les organisateurs estiment-ils à plus de 350 000 dollars le budget alloué à l'organisation de cet événement. Et c'est un coup dur que subit l'économie locale, disent-ils depuis Goma. Denise Loukesso.
Les organisateurs estiment que la vision, les objectifs et les valeurs du festival à Mani sont nobles et sont une contribution importante à l'entrepreneuriat des jeunes et à l'économie de la ville. L'impact économique du festival n'est donc pas à démontrer, s'insurge cet opérateur culturel.
Il y a des billets d'avion qui avaient déjà été payés, il y a des hôtels de la ville qui étaient déjà bookés pour recevoir toutes ces personnes qui venaient. Voilà, on oublie de parler de cette population, ce qui avait des stands dans le festival, les restaurateurs qui avaient déjà engagé des dépenses. Il y avait des dépenses d'impression. Je pense qu'à 80%, les dépenses étaient déjà effectuées pour que le festival soit tenu. Je pense à toutes ces mamans, à tous ces jeunes qui avaient déjà pris des stands, qui étaient prêts à lancer leur petite entreprise au festival pour essayer de gagner de bénéfices et qui aujourd'hui voient une annulation qui ne se justifie pas.
En plus des stands, ces festivals auraient pu générer des recettes importantes pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, des transports et autres. Annuler ces festivals, c'est un coup dur à l'économie locale, dit cette activiste sociale Chantal Faïda. Signalons que les billets achetés et les frais payés pour les stands seront intégralement remboursés. En revanche, les cachets des artistes déjà payés ne seront pas restitués, affirme la direction du festival. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Le Forum national pour l'élimination du cancer du col de l'utérus s'est ouvert hier jeudi à Kinshasa. Objectif, mobiliser toutes les parties prenantes, à savoir gouvernement, partenaires techniques et financiers, donateurs, sociétés civiles et autres acteurs, à s'engager en faveur de l'élimination de cette maladie du pays. Au cours de ces assises, les participants devront prendre des engagements fermes devant contribuer à atteindre l'objectif d'éliminer le cancer du col de l'utérus dans le pays, notamment par la mise en œuvre d'une série d'interventions complémentaires sur toute l'étendue de la RDC. Un reportage de Stanislas Diomi.
Pendant des jours, les participants à ces forums présenteront le cancer du col de l'utérus comme un problème de santé publique dans le monde et en RDC. Ils formuleront également des recommandations priorisées pour la mise en œuvre coordonnée de la stratégie de son élimination. Polydor Mbongani Kabila, coordonnateur national du Conseil national de la couverture santé universelle, a pris l'engagement de s'aligner sur les objectifs de la stratégie mondiale de l'OMS pour l'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030.
Il y a une stratégie que l'OMS a mis en place en fait en termes de la politique d'élimination du cancer du col. Cette politique, c'est bien sûr d'abord un plan stratégique national d'élimination de ce cancer, mais qui va se baser sur des approches qui sont reconnues comme étant efficaces.
Le gouvernement congolais a réceptionné l'équipe de tests et de dépistage pour traiter des lésions du cancer du col de l'utérus. Dr Roger Kamba, ministre de la Santé publique, explique.
Le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de mettre la santé publique comme une des grosses priorités de son quinquennat.
Les participants à ces forums mettront en place un mécanisme de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des engagements pris par les différentes parties prenantes.
Dans la province du Bas-Ouélé, les drames se succèdent. 48 heures après le double meurtre d'un opérateur économique et de son jeune frère, en représailles, deux présumés assassins, un jeune homme et une jeune dame, ont été décapités et leurs corps brûlés par des jeunes en colère. L'administrateur du territoire condamne vivement ce double crime. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Les présumés assassins ont été arrêtés en forêt par des jeunes gens à leur recherche après avoir appris la triste nouvelle de l'assassinat d'un opérateur économique et son jeune frère. Selon le président de la société civile de Bondo, ces personnes, dont une jeune femme, ont été décapitées au rond-point du marché puis brûlées vives. Bernard Akadé justifie cet acte cruel par la défaillance des services publics.
L'État est compétent, c'est pour cela que la RIA, la soulèvement populaire, l'attention est toujours élevée parce que la a cité d'autres gens, c'est pour cela qu'on est en train de faire les recherches.
Toujours selon le président de la société civile, la jeune femme déjà en sécurité au cachot du parquet a été extirpée par des jeunes en colère avant de lui ôter la vie. L'administrateur du territoire de Bondo, Thierry Mbokani, en mission à Bouta, condamne sévèrement ce comportement.
C'est vraiment cruel. Nous avons condamné cet acte-là parce qu'il fallait d'abord donner ces gens au service de bien faire son travail. Même chez nous, il n'y a pas aussi l'effectif. Les militaires ont peur pour ne pas aussi causer encore des dégâts.
Signalons que d'après la société civile, des détenus se trouvant au cachot ont pris le large au moment où les manifestants sont venus récupérer la dame accusée d'être complice dans ce double meurtre. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
En plus bref, en politique, sachez que l'opposant d'Eli Sesanga, président du parti Envol, a été brièvement interpellé et relâché hier jeudi à Kinshasa par la police nationale congolaise. Selon son parti politique qui dénonce cette interpellation qualifiée de brutale, c'était lors d'une activité de sensibilisation de la population contre la révision ou le changement de la constitution. Rodrigue Ramazani, secrétaire général d'Envol, affirme que l'hôtel de ville était informé de cette campagne de sensibilisation lancée par la plateforme Sursaut Patriotique. Il déplore la dispersion des militants de cette structure par les forces de l'ordre.
Actualité internationale.
16 personnes, dont 2 enfants, ont perdu la vie lorsqu'un bout de falaise s'est écroulé sur un bateau amarré le long d'un fleuve dans l'ouest de Madagascar. L'accident est survenu sur les berges du fleuve Tiribihina, dans la région de Menab, à quelques 320 km au sud-ouest de la capitale Antananarivo. Parmi les passagers tués figurent une petite fille et un bébé. 4 passagers appartenaient à la même famille et accompagnaient 2 morts dans des cercueils.
L'invité.
2,8 milliards de dollars américains, c'est le montant que le Fonds monétaire international compte décaisser en faveur de la RDC dans le cadre de 2 nouveaux programmes conclus en vue de relancer et diversifier l'économie congolaise ainsi que protéger l'environnement du pays. Ce programme viendra accroître davantage la dette publique de la RDC, estime l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Pour lui, le FMI accompagne le sous-développement de la RDC. Augustin Matata Ponyo est l'invité de Radio Okapi. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Augustin Matata Ponyo, bonjour.
Bonjour.
Vous affirmez que le Fonds monétaire international accompagne le sous-développement en Afrique et en RDC. Qu'est-ce qui motive votre thèse?
Je pars des statistiques internationales qui indiquent qu'entre 2016 et 2024, le niveau de pauvreté s'est accru dans ce pays. Alors que j'étais Premier ministre, entre 2012 et 2016, le taux de pauvreté était de 61%. Aujourd'hui, le taux de pauvreté entre 2021 et 2024 est de 83,3%. Au cours de cette période, le pays est en programme avec le Fonds monétaire international. Ça veut dire que les FMI accompagnent la RDC dans l'accroissement de la pauvreté. Deuxièmement, le Fonds monétaire, l'une de ses missions, c'est la stabilisation des cadres macroéconomiques. Et nous avons là deux indicateurs clés, le taux d'inflation et le taux d'échange. Regardez ce qui se passe en ce qui concerne le taux d'inflation. Quand j'étais aux affaires, sans programme du FMI, la moyenne annuelle était de 3,9%. Aujourd'hui, la moyenne est de 16,8%. Ça, c'est dramatique. C'est que le FMI accompagne la RDC dans l'inflation.
Mais en même temps, ce n'est pas le FMI qui gouverne la RDC. Dites-nous très concrètement comment le FMI a accompagné le sous-développement entre 2021 et 2024 en RDC, alors qu'on sait qu'il a plutôt apporté des capitaux au pays pour son développement.
Je suis tout à fait d'accord avec vous que le Fonds monétaire ne gère pas les pays. Mais le problème, c'est que le Fonds monétaire est une institution qui recommande la bonne gouvernance. Mais qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que le Fonds monétaire ne suit plus ce qu'on appelle les BAB de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Le FMI est complaisant à telle enseigne que le peuple congolais aujourd'hui soutient la complicité du Fonds monétaire international dans la mauvaise gouvernance. Je vous donne un exemple. Entre 2021 et 2024, le Fonds monétaire a décaissé près de 2 milliards 200 millions de dollars américains. La Banque mondiale, 750 millions de dollars. La BAD, près de 228 millions de dollars américains. Mais de ce montant qui fait un total de 3 milliards 200 millions de dollars américains, au minimum 1 milliard 500 millions de dollars ont été détournés.
Et quelles sont les conséquences immédiates de la coopération entre le FMI et la RDC sur le développement du pays?
Ben écoutez, si nous suivons la logique de mon raisonnement depuis le début de cette interview, nous pouvons dire que le Fonds monétaire contribue à l'endettement excessif dans ce pays. Et ça, c'est dramatique, parce que quelques années plus tard, ce sera le même Fonds monétaire international qui va qualifier la RDC d'un pays pauvre très endetté.
les fonds qui sont donnés par la Banque mondiale, qui sont donnés par la BAD, qui sont donnés par le Fonds monétaire international, c'est la dette extérieure. En moins de 6 ans, la dette publique de la RDC a doublé. Et là-dedans, vous y trouvez près de 7 milliards de dettes extérieures. Mais c'est dramatique.
N'êtes-vous pas là en train de pousser un cri de frustration parce que lorsque vous étiez ministre de Finances, puis Premier ministre, vous n'aviez jamais réussi à obtenir un programme économique avec le FMI?
Monsieur Michel, laissez-moi vous dire, c'était en 2010, lorsque nous avons atteint le point d'achèvement, tous les critères conjoncturels, quantitatifs, ont été respectés. Vous savez que le Fonds monétaire a refusé de conclure le programme du fait que dans la périphérie, dans le pays, l'entreprise publique a accompli un acte de mauvaise gouvernance. Mais qu'est-ce que nous réalisons aujourd'hui, Michel? C'est que les critères quantitatifs ne sont jamais respectés totalement. Détournement, corruption. Mais le Fonds monétaire s'est complet à pouvoir conclure des revues. Suis-je frustré? Évidemment, je dois être frustré du fait que le Fonds monétaire, ce n'est plus le même Fonds monétaire. Il y a deux poids, deux mesures. Le Fonds monétaire voulait conclure le programme avec moi quand j'étais Premier ministre. Mais je refusais parce que j'estimais que sans le Fonds monétaire, nous réalisions les meilleures performances socio-économiques que la RDC n'a jamais réalisées depuis 1960.
Augustin Matatampogno, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un journal mis en onde par Polydor Basunga, supervisé par Pele Kipela. À la présentation, c'était Noéla Luzitu Kabambi.